Manitou, la famille d'Abraham, quatrième dans l'art.
Après les quintettes du Zohar, nous avons étudié, et vous la déplacez pour voir le texte du récit à propos duquel ce texte du Zohar enseigne ce qu'il enseigne.
C'est les feuilles d'aujourd'hui.
Alors, nous allons commencer à lire à partir du chapitre 17, Yud-Zayin en hébreu, à partir du verset 15, Tedor. J'ai lu quelques phrases d'introduction à ce texte pour relier à notre sujet général. Un des thèmes principaux que nous avons étudié, c'était le changement du nom d'Abraham, de Sarai en Sava. Nous avons moins étudié celui-là, je vais revenir. Et la signification, d'après l'enseignement du Talmud, c'est le passage de cette identité araméenne, le passage à l'universel, et en cela, l'identité hébraïque d'origine se retrouve déployée. Je vous rappelle de toutes les implications de ce sujet. Alors, je voudrais rattacher à ce thème le fait que tant que ce passage à l'universel n'est pas réalisé, et nous verrons tout à l'heure à travers un texte du Zohar que c'est relié à l'alliance de la circoncision, la naissance de l'enfant promis à Abraham et Sarah est empêchée. Vous voyez comment ça se raccroche, tout ce que nous avons étudié juste à présent sur ce thème d'identité. Alors nous allons voir à partir du verset 15 du chapitre 17 dans la Genèse. Alors je dis simultanément en hébreu et en français, Vayomer Elokim, et Dieu dit El Abraham, à Abraham. Donc là, le changement de nom est déjà advenu. Sarai Ishtecha, Sarai ta femme, Lotikra et Shema Sarai, tu ne nommeras pas son nom Sarai, dit Sarah Shema, car son nom est Sarah. Le verbe s'est mal ajouté dans la traduction, on pourrait aussi traduire car son nom sera Sarah. Et à ce sujet, la Gemara enseigne, je vous rappelle la référence, nous avons étudié à propos du changement de nom d'Abraham. C'est le. Le Talmud Brachot, page 13a. À Koré de Sarah Sarai, celui qui nomme Sarah du nom de Sarai, c'est-à-dire une fois que le changement de nom a été opéré, qui revient en arrière et le nomme de nouveau Sarai, la différence, vous en souvenez, Sarai c'est ma princesse, spécificité très précise de la relation entre Sarah, qui sera la matrice de l'engendrement d'Israël, par rapport à Abraham lui-même, et Abraham seul, Sarai, ma princesse, alors que Sarah, c'est la princesse à l'échelle de l'univers. Alors, Koré de Sarah, Sarai, et non over Bela, ne transgresse pas un commandement. Ce n'est que celui qui reprend en régression le nom d'Abraham pour Abraham, transgresse un commandement négatif et un commandement positif. C'est clair? Il y a une différence pour Sarah. Celui qui nomme Sarah de nouveau Sarah ne transgresse pas le commandement. Maïtarna, pour quelle raison? L'otikra dit, parce qu'il est écrit, et ça s'adresse à Abraham, précisément, tu ne l'appelleras pas, tu ne l'appelleras plus, donc Sarah. Et par conséquent, ce verset indique une interdiction pour Abraham, et pour Abraham seul, alors que la formule du changement du nom d'Abraham était universelle. C'est clair? Vous voulez des explications supplémentaires? J'espère que c'est suffisamment clair. Vous reviendrez sur les textes vous-même. Je lis la fin de la citation du Talmud. Les didés, Kamzaï, ça signifie, cette exhortation, c'est pour lui, Abraham, seul. Les didés, Kamzaï, Rahamana, Abal, Khoula, Alma, l'eau, mais pas pour le reste du monde. Ça signifie donc que l'identification de Sarah, qui est passé à l'échelle de l'universel, dans la spécificité de la relation Abraham, que c'est quand même Sarah d'Israël, doit être gardée pour l'universel humain, c'est Israël qui ne doit pas empêcher ce passage à l'universel. Je voulais vous signaler en passant. Mais nous arrivons à notre sujet. Le verset suivant dit, « Vous verrez Artiota, et je la bénirai, Veram natatim imena lechabel, et même je te donnerai à toi d'elle un fils, ou verartira, et je la bénirai, ici ça signifie, je la rendrai féconde, veit al-goyim, et elle sera le principe d'un ensemble de nations, malché amim imenaïm, les rois des peuples seront d'elle. » À ce sujet, la Gemara enseigne que ce changement de nom, changeant d'identité, a rendu possible cette fécondité de l'enfantement qui était attendu. Il y avait là un lien entre deux points importants que nous avons étudiés. D'une part, le principe du passage de l'identité spécifique araméenne à l'échelle universelle pour retrouver l'identité hébraïque. Et le fait que, tant que ce passage à l'universel n'est pas amorcé, la fécondité promise est empêchée. De telle sorte d'empêcher que cette identité de bénédiction et de fécondité promise à Abraham pour la bénédiction de toutes les familles de la terre ne risque pas d'être une approximation. L'approximation serait quelque part entre la spécificité absolue de l'identité d'exil araméenne et l'universel. Un peu ce que nous avons dénommé en français la suite de vos questions, l'identité cosmopolite, pour appeler de cela. Bien. Voilà donc les deux versets qui indiquent qu'enfin est arrivée l'heure de l'annonce de la possibilité de la naissance d'Isaac parce que Sarai est devenue Sarah et parce que Abraham est devenu Abraham. Donc nous verrons par la suite du texte le lien avec l'importance de la circoncision qui va permettre la naissance d'Isaac. Alors je continue le texte, c'est là que nous arrivons à notre sujet. Vaïpol Abraham Alpana. Et Abraham tomba sur sa face, Vaïtsrak, et il rit. Vaïomer Belipo, et il dit en son cœur, Aleven Meashana Yvalet. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui est âgé de 100 ans puisse engendrer? Veim Sarah Abad Tishim Shana Telet. Et que Sarah, âgée de 90 ans, puisse enfanter. Là, nous avons déjà fait allusion à ce verset dans les études précédentes. C'est la meilleure, je crois encore, la réaction d'Abraham devant le caractère d'irréalité de la promesse promise, si j'ose dire. Que par définition, la foi va être définie en Abraham comme étant la foi qu'il est possible qu'Isaac naisse. Et Ménim Bachem, la première fois que le texte emploie le terme de foi, si j'ose dire, dans le texte, par rapport à Abraham, c'est lorsqu'Abraham a cru, a fait confiance à cette promesse que, alors qu'il se connaissait comme une fin d'histoire, stérilité de l'hébreu devenu araméen définitivement, point de suspension en risque, c'est in extremis que la famille d'Abraham redeviendra hébreu dans le processus d'engendrement qui mènera à Jacob. Se connaissant d'après le Tifkoud Aolam, le fonctionnement des réalités du monde, comme étant arrivé à une fin d'histoire, il n'arrive pas à entendre les promesses de fécondité pour l'avenir. C'est clair ce principe. Et ce n'est que lorsque il opère en lui ce passage de l'identité araméenne à l'identité hébraïque, que je vous ai dénommé le passage à l'identité de l'universel, qui est celle d'Israël, comme on parle de la Bible, est différente du cosmopolitisme, pour raccorder notre vocabulaire, alors que il est simultanément capable d'entendre cette promesse et d'y adhérer, et d'autre part de la réaliser, et corollairement de la réaliser. Alors il y a là deux termes qu'il faut mettre en évidence. D'une part le terme de Vaïtsrak, c'est ce thème du rire qui accompagne la naissance d'Itsrak doit être étudié pour lui-même, les différentes dimensions du rire, parce qu'il y a différents personnages qui vont rire à cette occasion, si j'ose dire. Yitzhak, lui, n'aura le droit de rire qu'à la fin des temps. Son nom est le verbe rire au futur. Yitzhak, il rira. C'est bien clair. Mais un rire éclatera à certaines étapes de cette naissance. En fin de compte, la grande espérance annoncée à Abraham commence à se réaliser avec la naissance d'Yitzhak. Donc le rire et la joie, c'est très relié dans son baptisement, dans ce père, commence à se réintroduire dans l'histoire du monde. Vous vous souvenez d'ailleurs, ceux qui ont étudié ce thème, que la séparation entre Ishmaël et Yitzhak a été décidée par Sarah lorsqu'elle s'est aperçue que le rire du fils d'Abraham en Ishmaël est un rire au présent, alors que ce qui est annoncé, c'est le rire au futur. Vous vous souvenez de ce thème ? Et puis, le deuxième élément, c'est la formulation de ce caractère irréel, irréaliste de la foi dans cette promesse par rapport à la réalité du monde. Lorsque Abraham dit, est-ce qu'il est possible qu'un homme de 100 ans engendre une femme de 90 ans enfant ? Donc il faut confronter cela avec le lien qu'il y a, enfin la relation qu'il y a entre la foi d'Israël en général et quel que soit le point sur lequel elle porte et la réalité qui semble opposer une impossibilité d'un point de vue réaliste. Monsieur Press n'est pas là, il dirait qu'il ne faut pas vivre son temps, donc nous vivons notre temps. Il est bien évident que c'est une expérience, une des situations auxquelles le peuple juif tout entier, Israël tout entier, est confronté aujourd'hui. Je formulerai cela de façon très précise. Semble-t-il que l'existence d'Israël se heurte à une irréalité numérique. On nous donne des chiffres de démographie, de nombre de journalistes pour qui c'est impossible qu'Israël existe dans les conditions dans lesquelles il existe. Tout ça est déjà dans ce verset. C'est dans l'exclamation d'Abraham, mais c'est numériquement pas possible. C'est ce que je voulais indiquer. Et c'est pourtant de cela qu'il s'agit. Je crois que c'est important de le dire.
Pourquoi c'est clair ?
Comment c'est clair ? C'est clair que c'est la même situation. Je veux dire que.
Pourquoi ?
Puisque j'ai parlé de cela, je vais le préciser. Il me semble que ce que je disais était suffisamment clair. C'est pourquoi j'ai dit c'est clair. C'est que ce qu'on oppose à la prétention. Je raconte, vous étiez à l'étude hier soir. Je raconte donc à hier soir, hein, à la conférence hier soir. À ce qu'on a fait allusion plusieurs fois à Armand Pécassis hier soir, c'est-à-dire qu'on oppose à la prétention de légitimité de l'État d'Israël l'impossibilité par rapport aux réalités. C'est pas une chose que je voulais dire. On voit qu'à la racine de notre histoire, c'est le même problème qui se pose. Lorsqu'Abraham s'entend dire je te donnerai un enfant de Sarah, mais la réaction qu'il a, il dit c'est impossible vu la réalité. C'est ce lien que je voulais indiquer. Bon, il faut y réfléchir par vous-même. Je veux dire, c'est en dépit de l'irréalité apparente qu'Israël existe depuis 4000 ans. Il n'y avait rien changé. Je crois que le calme a dû revenir à Alger, mais il n'y a rien changé. Et on continue. Alors, c'est là que nous arrivons à les questions. C'est là que nous arrivons au verset 18, le verset sur lequel nous avons étudié un passage du Zohar. Vayomer Abraham, et Abraham dit, et l'Elohim, à Dieu, Lou Ishmael, Ichye Lefanecha. Que cependant, puisses-tu faire que Lou, c'est un souhait optatif, utinam, en latin, je vais vous dire comment ça en français, Ishmael, vive devant toi. Alors Abraham est convaincu, Yitzhak, l'enfant de Sarah, va naître. Et tout de suite, il pense à Ishmaël. Fait qu'au moins, Ishmaël vive devant toi. Ishmaël était déjà né. Des circonstances que nous avons déjà analysées, le fléchissement de la foi et de la patience chez Sarah et chez Abraham. Entre-temps, Ishmaël est né. Et voilà qu'en fin de compte, Abraham est convaincu qu'Isaac naîtra. Alors, il y a un problème avec Ishmaël. Et c'est Abraham qui dit ainsi, « Lou, Ishmaël, Ishriel, le premier. Qu'Ishmaël vive devant toi. » Voyez-moi, Elohim, Dieu lui dit, Aval, mais, sous-entendu, n'oublie pas, Sarah Ishtecha, Sarah ta femme, Yolede Techa Ben, et c'est au présent, t'enfante à toi un fils, le Karata et Cheno Yitzhak, et tu nommeras son nom Yitzhak, va à Kimotier de l'Ekipito, et je maintiendrai, c'est pas exactement maintiendrai, je ferai exister mon alliance, c'est plus que je contracterai mon alliance, elle est déjà contractée avec Abraham. Mais je la mais Hakim, je la réaliserai plutôt avec lui. Les brites en l'âme, en alliance éternelle, les avoir à sa postérité, après lui. Verset 20. Ou Ishmael, chez Martira. Et quant à Ishmael, je t'ai entendu. Notez le lien des sémantiques, on ne connaît pas le même mot. Ishmael, chez Martira. Et en ce qui concerne Ishmael, je t'ai entendu. Et né, voici, Berarti Oto, je l'ai béni. Veifreti Oto, je l'ai fructifié. Veirbeti Oto, je l'ai multiplié, bimot berot, extrêmement. Shnem Asar Nesiim Yoli, il engendrera 12 princes. Nitati le Goyadol, et j'en ferai une grande nation. Veiberiti, verset 21, mais mon alliance, Hakim et Yitzhak, je la réaliserai avec Isaac. Donc une différence entre la bénédiction qui est l'héritage d'Ishmaël et l'alliance d'Abraham qui continue avec Isaac. Je la maintiendrai avec Isaac. Asher Teled Lecha Sarah, que Sarah t'enfantera. On est à la page. La Moed, Azé, Bashana, Aachel. En cette époque de l'année, l'année suivante. Voilà, c'est essentiellement ce que nous avons besoin de dire. Je retiens donc deux points. Il y a un souhait d'Abraham par rapport à Ishmaël, et cela est conféré par Dieu. Et d'autre part, il y a le rappel que Ishmaël a ses propres bénédictions. Et je donne une autre référence qu'on ne vous a pas donnée en polycopie. C'est le verset qui formule la bénédiction propre à Ishmaël, et qui se trouve au chapitre 15. Chapitre 15 du verset 12. Chapitre 15, verset 12. Alors, l'ange se révèle à Agar pour lui annoncer qu'elle aura un fils. Après que Sarah ait obtenu d'Abraham, Sarah renvoie Agar. Lorsque elle s'est révoltée contre Sarah, je verrai tout le chapitre 16. Je vous dis chapitre 15 ou chapitre
15.
Non, c'est chapitre 16. Quand je dis prendre un loup, je me trompe de lettre. Chapitre 16. Là, je vous signale un point qui est peut-être peu connu dans le déroulement du récit. Lorsque Sarah a proposé à Abraham de prendre la garde, puisque elle pensait que définitivement elle ne pourrait pas enfanter, alors Abraham a accepté, a épousé Agar. Agar était enceinte. Alors, lorsque Agar a vu qu'elle était enceinte, elle s'est révoltée contre Sarah, et Sarah a obtenu d'Abraham qu'il la renvoie. Et elle a avorté. Et un ange se révèle à elle, dans ce chapitre, pour lui dire qu'elle aura un fils. Et c'est le deuxième fils de Agar qui est Ishmaël. Vérifiez bien dans le chapitre 16. Et le verset 11 dit ceci, Vayomer lach mala Hachem, Vayomer lach mala Hachem, et l'ange de Dieu lui dit, Inah hara, voici, tu seras enceinte, Vayolat ben, tu enfanteras un fils, Vayolat shemo Ishmael, et tu donneras son nom Ishmael, Ishama Hachem el Ranir, car Hachem a entendu ta misère. Vehu yé pere Adam, voici le verset qui définit la bénédiction propre à Ishmael. Et il sera Péré Adam. Vous verrez dans vos traductions en français, j'en ai pas eu tous les yeux. Comment on traduit ça?
Un
homme sauvage.
Un
homme sauvage. Péré, ça veut péré seul, ça veut dire un onagre. C'est-à-dire un homme sauvage. Et Péré Adam, ça veut dire un homme qui est comme un animal sauvage. Alors, retenez ce mot de Péré Adam. Yado Bakol, sa main sera sur tout, Yad Kol Bo, et la main de tous sera sur lui. C'est une formule apparemment sibylline. Pensez bien que le Médrash devra étudier ça à fond, et de cette sorte de savoir quel sera le développement du génie d'identité d'Ishmaël. Alors, je reprends cette formule très rapidement. Yado Bakol, sa main sera sur tout. Il y a une tendance à. Une expansion qui s'impose au monde entier. Et on ne peut pas ne pas se rendre compte que c'est le cas. C'est le cas la deuxième fois dans l'histoire du monde, puisque la première fois dans l'expansion de l'islam, on voit quelque chose d'inhabituel dans l'histoire des civilisations, une petite nation partie d'Arabie et qui pratiquement couvre aujourd'hui les continents. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Je veux dire, c'est simplement mettre en évidence que nous sommes habitués à faire de présence, mais sa présence même pose une question de mystère. Comment se fait-il que parmi toutes les multitudes de nations du monde, une en particulier ait cette capacité d'expansion, cette capacité de domination et d'impérialisme, si j'ose dire, en élargissant le sens de ce mot. Bon, c'était arrivé jusqu'à Poitiers, mais de notre temps, c'est avec une toute autre stratégie, quelque chose de beaucoup plus fort, ça me dit. Est-ce que c'est clair, ce Encore une fois, je suis désolé que notre excellent ami Michel France ne soit pas là. La Bible aujourd'hui, c'est ça le fond du problème. Il faut demander pourquoi la tradition nous a demandé depuis des millénaires de lire ces textes chaque année, toutes les semaines, le Shabbat et la Torah. C'est au fond pour savoir qui nous sommes, dans quelle histoire nous vivons. Parce que c'est clair. Et pas seulement pour avoir des souvenirs de nos ancêtres, quel a été leur menu au petit déjeuner. Comme si c'était important. Et c'est bien clair, je crois, vous êtes déjà familier à ce principe. Maasé et Aaron, c'est même la manière. Si on nous demande de connaître par cœur ce texte des récits bibliques de l'histoire des Hébreux, c'est parce que c'est notre cœur d'identité, que c'est cette histoire que nous vivons. C'est pourquoi il y a un très grand danger à fermer les yeux sur ce que la Bible dit de ce qu'elle dit, tout simplement. C'est à force de ne pas vouloir voir qu'on ne voit plus. C'est un des sens du verset, ils ont des yeux et ils ne voient. Bien, je reviens donc une minute, je vais terminer cela. C'est-à-dire qu'il y a deux parties dans cette bénédiction. Il y a deux bacots. Les mots sont très précis et très forts. Sa main sera sur tout. Veyad kolbo, et la main de tout sera sur lui. Alors oui, jusque-là, c'est très sibyllin. J'ai commencé simplement à vous indiquer, ça a un sens très, très précis pour ceux qui étudient le Midrashim. Nous savons depuis l'origine qu'il y a dans le génie Ishmael une capacité d'expansion universelle qui, en fin de compte, a donné l'islam ce que ça représente comme volonté d'hégémonie. Bon, dans le temps contemporain, il y a l'exemple massif de l'Iran et du roumanisme, si vous voulez, mais la mémoire juive est habituée à cela depuis toujours. Et après, nous verrons la deuxième partie. Attendez, madame,
ce n'est pas le sabre qui a été promis à Abraham.
Ce n'est pas comment ?
Le sabre qui a été promis à Abraham.
Et pour la descendance par Isaac, elle sera nombreuse comme le sabre de la mer. Et elle sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Ça, c'est pour Isaac. Mais là, les termes de multiplication, fructification sont employés pour Ishmael. Il y a sur Ishmael la définition du nombre. Et le verset que nous sommes en train d'étudier va beaucoup plus loin. La main mise, littéralement. La dos va quoi ? Sa main sera sur tout. Je crois qu'en français, on dit la main mise. La main mise sur tout. Et c'est avec une. Ah, encore une fois, je reprends la formule qui m'avait à l'esprit, Charles, nous étudions ces correspondances. Et, si je veux dire, c'est étonnant. De quoi il faut le plus s'étonner? Parce que le texte nous explique aussi clairement ce qui se passe, et le fait que les événements s'entêtent aussi clairement rendent compte du texte. Mais c'est quand on ne voit pas qu'on ne voit pas. Mais il suffit de lire pour se rendre compte que c'était déjà écrit, si je veux dire. Il y a dans l'identité d'Ishmaël, un postulat qui va de soi, la mainmise lui appartient, surtout. Ça, c'est encore en dehors du conflit avec Isaac et donc Israël. Est-ce que c'est clair? Alors, ce qui m'étonne, c'est la facilité avec laquelle, tout en réchignant, le monde entier accepte, comme si ça allait de soi. Eh bien, après tout, c'est écrit, il faut bien que ça se réalise. Bien, ça, c'était votre question. Mais très rapidement, parce qu'il faut finir le verset.
Juste un petit point d'éclaircissement à propos du verset 28,
oui.
18, pardon. Vayomer Abraham, El Ha-Elohim.
Oui.
Est-ce que le Ha-Elohim est en correspondance avec le Ha-Elohim que nous avons vu hier au soir?
C'est un peu différent. Et hier au soir, nous avons vu deux Ha-Elohim.
Deux Ha-Elohim. Justement, il y a un verset supplémentaire.
Mais ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. C'est l'ensemble du tribunal de Céleste. Et Eric, vous ?
C'est vraiment que tu m'avais été intrigué, et ça ressemblait à l'inverse de la bénédiction que Jacob fait pour Gad. Et pour Gad, il y a marqué Gad sera fini de l'ennemi, il devinera son tour.
Eh, dis-moi en hébreu.
Bon.
Oh, tu lis, c'est tout.
Alors, Gad,
Gadou dit.
Pardon, excusez-moi.
C'est formel. C'est formel la correspondance. Si dans le contenu de la bénédiction, il s'agit vraiment d'une mainmise sur tout, d'une prise de possession, et ensuite d'une dépossession totale. Le sens est clair. Alors je vous donnerai l'explication du Zohar à ce sujet. C'est que nous avons déjà appris cela, ou rappelé cela dans ce séminaire. Les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ont été, soit c'est une question de David, le cours dernier, il me semble, ont été bénis par la même formule de Kol, dans des indices différents. Abraham, Bakol, Yitzhak, Mikol, Yaakov, Kol. C'est-à-dire, vous rappelez de cela. Bon. Et alors, l'assurance d'Ishmaël, c'est son achiza, le fait qu'il s'accroche à Abraham. Yado, Bakol, sa main est sur Abraham. C'est clair? Mais la main de Jacob sera sur lui. Et il y a Kol Bo. Vous voyez comment ça se développe dans l'histoire. Et ça va peut-être analyser plus. Et je crois qu'on est arrivé à la fin du verset. C'est-à-dire que le fait que Ishmaël est enraciné en Abraham lui donne la possibilité de mainmise sur tout. Mais lorsque Jacob apparaît, c'est Jacob qui met fin à ça. Yado, Bakol. Yad Kol Bo. C'est encore. C'est clair. Un exemple de ces correspondances, Jacob et pas Isaac. Et c'est pour toujours lire de façon très précise, comme c'est écrit, pas plus. Mais pas moins. Je vais faire un peu. Maintenant, alors vous allez prendre la page 10. Vous avez deux colonnes. La colonne qui est écrite en écriture rachis, c'est la première page. Okay. La colonne qui est écrite en écriture rachis, c'est le texte du Zohar en araméen. Et la colonne qui est écrite en carré, c'est la traduction en hébreu. Alors, on va lire directement sur le texte hébreu, parce que vous êtes moins familier au texte araméen, je suis. Alors, on prend, depuis le paragraphe, qui commence avec une petite alote en caractère rachis, voyons. C'est notre verset. Vayomer Abraham et la Elohim, Lou, Ishmael et Fébéphane. À propos de ce verset, et Abraham dit à Dieu, fais que Ishmael vive devant toi. Alors je traduis, et j'explique en traduisant, et on s'arrête s'il y a quelque chose qui vous arrive. Okay. Il me semble dans ma mémoire que nous avons déjà dû lire ce texte une fois, peut-être il y a des années, je ne sais pas, peut-être pas ici. Nous direz, Nehenar, Rabbi Chida ou Bacha, Rabbi Chida, et a gémi et pleuré en lisant ce verset. Patar Verma, il a commencé à dire ceci. Vatehi Sarai Akara et Navalad. Un verset que nous avons lu hier ou avant-hier. Et Sarai était empêchée d'enfanter, elle n'avait pas d'enfantement. Vai Alze, malheur à cela. Vai Alzmanam, malheur à ce temps, chez Yalda Hagar et Ishmael, où Hagar a enfanté Ishmael. Et c'est Rabbi Chia. Okay. Amaré, Rabbi Yossé, Velama. Rabbi Yossé lui dit, et pourquoi? Haré, Yalda, Sarah, Harkar. Voici que Sarah a enfanté après. Veyala, Ben, Gezar, Kadosh. Elle a eu un fils de la postérité sainte. L'argumentation est très simple de la réponse de Rabbi Yossé à la plainte de Rabbi Chia. Mais puisque, en fin de compte, Sarah a enfanté, eh bien, ce malheur que. Elle était infertile, pour oser le dire, infertile, et qu'à cause de cela, Agar a enfanté Ishmaël, a disparu, ça a enfanté Israël. Et il ne faut pas avoir, Aïn Raha, l'œil mauvais, et bien Ishmaël est né, voilà que ça a enfanté, voilà que se réjouir, qu'Abraham a eu, et un enfant de Agar, et un enfant de Sarah, ça c'est la biose. C'est clair? Amaré, Rabbi Chia lui répond. Ataroé va niroé. Tu vois une chose et moi je vois une autre chose. Toi tu vois quelque chose et moi je vois quelque chose. Ça veut dire, c'est pas contradictoire. Et le Chach Shamarti Mitin chez Rabbi Shimon. Et c'est ainsi que j'ai entendu de la bouche de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Mariochal. Le Hazan Ibouché, Et c'est pourquoi je pleure. Vai Azmanaou, malheur à ce temps chez les filles, chez Sarah Nitrakeva Katou, qui, parce que, à cause du fait que Sarah était empêchée d'enfanter, il était chez Batomer, Sarah et l'Abraham, le Gomer, Bona et Shiprati, le Gomer. Sarah a dit à Abraham, prends ma servante, etc. Ni Penézé, et à cause de cela, Amda Shahal et Agar, l'heure a souri à Agar, la réchette les Sarah Gébirka, de déposséder Sarah, sa maîtresse. Vayala ben Abraham, et elle a eu un fils d'Abraham. Vayabraham Amar, et puisque, c'est moi qui ajoute déjà pour expliquer, mais puisque cet enfant est né, Ishmael, alors Abraham a dit, Lou Ishmael Ishé les Kamecha, fasse que Ishmael vive devant toi. Vayabraham, et bien que, Shakadosh Baruch Hu, que Dieu, Hayam et Baserlo, Al-Itsrak, bien que Dieu était en train de lui promettre pour Isaac, Abraham était préoccupé de Ishmael. C'est clair jusque-là? La traduction de la Il d'avec Abraham et Ishmael. Et Abraham s'est attaché à Ishmael. C'est ce que je vous avais dit plusieurs fois, mais c'est pas simplement une manière de parler, que de notre temps, Abraham serait Shalom Marchand. Vous vous rappelez? C'est clair. Sarah serait bouchée de nuit. Et la Torah a tranché. C'est par ça que ça parle. Tu peux rien, c'est pas moi. Donc, c'est la Torah, c'est moi. Jusqu'à ce que Dieu, Yeshivu, lui a répondu, ou l'Ishmael, Shemarticha, l'instant c'est un Ishmael, je t'ai entendu. Ça signifie, il faut le dire, je crois, en clair, ça signifie que les bénédictions d'Ishmael, c'est Abraham qui les a arrachées. Et ça s'est fait jusque-là. Donc, si l'humanité savait cela, nous en voudrions, pour notre père Abraham.
Et alors, non, je l'ai sorti spontanément.
Mais je vous en
prie. J'ai une idée comme ça. Il y a un parallèle là. Abraham semble préférer Ishmael de la même manière qu'Itsrak va préférer à certains.
Très bien. Si on attend tout à l'heure, vous pouvez poser la question. Oui. Mais je vais répondre tout de suite. Il s'agit de l'histoire des engendrements. Et pour ça, il faut un père et une mère. Mais à propos de cette histoire, on apprend que c'est la mère qui comprend les engendrements plus que le père. Le père est aveugle dans ses engendrements. C'est la mère qui comprend. Et vous verrez que c'est la mère, à chaque génération, qui a décidé contre la vie du père. Ça passe pas par lui, mais par lui. Elle connaît les enfants qu'elle entend, qu'elle a portés en son sein, si je veux dire. Ça, c'est très clair pour Jacob et Esaü. Mais c'est très clair aussi dans l'histoire d'Abraham, Agar, Sarah. Parce que Agar n'était femme d'Abraham que parce que Sarah en a fait la femme d'Abraham. Et lorsque elle a proposé Agar à Abraham, elle a dit clairement, vous retrouverez le texte, j'adopterai cet enfant et peut-être je me construirai à travers lui. Ça veut dire, Sarah envisageait d'adopter, mais à travers cela, de créer Israël à travers Ishmael. Un des projets de Sarah, c'est l'empêchement vient de la garde. Et par conséquent, pardon, je vous ai indiqué, du point de vue de l'érudition, je ne sais pas si vous avez étudié ça, il y a une Mishnah des Pirkei Avot qui pose la question « Ezehu Chacham ?» De qui peut-on dire qu'il est sage? La réponse est « Alomen Mikol Adam » sur notre Mishnah, c'est « Aroé et Anolab » celui qui prévoit les conséquences. Or, lisez quand c'est écrit « Aroé et Anolab » celui qui voit ce qui est en train de naître. Or, qui voit ce qui est en train de naître? C'est la sage-femme. C'est la femme sage. C'est fait. Et c'est à propos de cela que la Gemara va établir que Sarah était plus grande prophétesse qu'Abraham. Et de là, le Talmud tire un principe énorme. C'est que lorsqu'une femme est prophète, elle est plus prophète qu'un homme. Ça vous déboussole. Vous êtes anti-féministe, du coup. Et parce qu'il y a un problème, qu'est-ce que c'est que la prophétie? La prophétie, c'est la compréhension de ce qui se passe dans les engendrements de l'homme. Or, qui comprend les engendrements de l'homme? C'est la matrice. Vous voyez pourquoi nous sommes les fils de la mère dans le judaïsme. Et à la marine aussi, on est fils de la mère.
Oui, mais par contre, au niveau de Jacob et vis-à-vis de Joseph, il y a quand même une différence là. Parce que
Jacob a préféré Joseph parce qu'il aimait Rachel et que c'est le fils de Rachel. Mais n'oubliez pas qu'au niveau de Jacob, il y a deux identités. Il y a Jacob et Israël. Le fils d'Israël, c'est Yehuda de Léa. Le fils de Jacob, c'est Joseph de Rachel. Est-ce que c'est clair? Nous en avons parlé de façon différente, à différents sujets. Et bon, je vais faire la parenthèse, parce que peut-être qu'il faudra qu'on étudie ça. J'ouvre une petite parenthèse sur hier soir. Les formules de Macher Ben Yosef et Macher Ben David ont été employées. Mais il me semble, je n'ai pas voulu intervenir hier soir, mais peut-être nous ferons un séminaire là-dessus, je demanderai à Armand Bekassis de venir, à un niveau décalé. Armand Bekassis, à mon sens, a expliqué Joseph et Judas, et non pas Macher Ben Yosef, Macher Ben David. Joseph, c'est Israël de l'exil. Judas, c'est Israël d'Israël. Macher Ben Yosef, ce n'est pas Yosef. Yosef Hatzadik, c'est Yosef Hatzadik. C'est Israël de l'exil, c'est le fils de Jacob. Mais Macher Ben Yosef, c'est le Macher du retour des exilés. Lorsque Joseph revient en Israël, c'est Macher Ben Yosef. Est-ce que c'est clair? C'est différent au niveau. Comment?
Oui, c'est clair.
Avec moi?
Oui.
Bon. Alors, vous avez recodé, j'espère.
Oui, je...
Bon. Alors, donc là, la préférence de Jacob pour Joseph, c'est autre chose. C'est parce que Jacob rend en Joseph ce que lui, Jacob, voudrait être comme Jacob. Mais il est Israël. Et j'ai pas traduit, mais vous avez compris. Alors, nous venons de finir de vivre 2000 ans comme Jacob. Alors, on est habitué à croire qu'Israël, c'est Jacob. Mais bien sûr qu'Israël, c'est Jacob. Mais là, ils disent Jacob, Jacob n'est pas Israël. Et il faut être familier avec tous ces textes. Vous voyez, pendant 2000 ans, on les a vus, c'est pas pourri. Au moment où il faut les vivre, on ne sait plus les lire. Et alors, ce que je veux dire, c'est que ces textes sont très précis. Chaque fois qu'un verset emploie le mot de Jacob, c'est Jacob qui veut dire. Chaque fois qu'il emploie le mot d'Israël, c'est Israël qui veut dire. Et dans le même verset, il y a des fois Jacob, des fois Israël. Je vais lire un verset à ce sujet, qu'on était d'ailleurs chez nous, c'est un parasha de Vayikra. Vous allez voir comment c'est très précis, du point de vue de cette différenciation d'identité féminine. Ça doit être 46. Voilà, c'est chapitre 46, verset 2, dans la Genèse. Mais j'ai la référence, vous l'avez. Je vais lire ce verset. Vayomer Elohim, les Israël, Bemarot Adaïla. Et Dieu dit à Israël, dans les visions de la nuit, Vayomer Eli, Yaakov, Yaakov, Jacob, Jacob. Où se passe ce verset? C'est quand Jacob va descendre en Égypte, rejoindre Joseph. Il s'arrête à Beersheba. Et il a une révélation, parce que Isaac, à la génération précédente, devant l'échec d'Ésaü, a cru que l'histoire de l'exil devait recommencer, s'est dirigé vers l'Égypte, mais a été arrêté à Beersheba par une révélation, il lui a dit « Toi, tu quittes le pays, à Beersheba. » Et lorsque Jacob, descendant en Égypte, arrive à Beersheba, il se rappelle de cela. Il se dit « Peut-être que moi aussi, je n'ai pas le droit de quitter le pays. » Alors Dieu se révèle à lui pour lui dire « Toi, tu peux descendre, mais je te ramènerai. » Parce que le statut de Isaac et le statut de Jacob dans le rapport à l'exil est très différent. Pour Isaac, c'est interdit. Et alors, c'est d'ailleurs grâce au mérite d'Isaac qu'on a des droits sur l'Eretz Israël. Parce que c'est le seul patriarche qui, toute sa vie, a vécu en Eretz Israël. Abraham commence son histoire dans l'exil et l'achève en Israël. Jacob commence son histoire en Israël et l'achève en exil. C'est Isaac qui n'est jamais sorti du pays. Il a eu une seule femme. Et vous allez me dire c'est lié, bien sûr c'est lié, mais c'est un autre sujet. Alors, vous comprenez que c'est clair. Alors, je reviens en tout cas au problème. C'est que au moment où Dieu se révèle à Israël, pour l'appeler Jacob, c'est la nuit. Et c'est la descente en exil. C'est-à-dire, en exil, Israël s'appelle Jacob. Revenu en Israël, Jacob s'appelle Israël. Et c'est de niveau divin. Donc, chaque fois. Bon, Yeshua, c'est une projection au temps de Moïse. Au temps de Moïse, Israël reçoit le nom de Yeshua. Bahi, Bishuru, Mel. Et, que disais-je?
Jacob en exil.
Oui. C'est simplement, on veut dire, quand le verset emploie le nom de Jacob, ou le nom d'Israël, et parfois dans le même verset, c'est intentionnel. Je vous donne un autre exemple, dans la paracha de Vayechi. Et après, il faudra qu'on avance dans le texte du Zohar. Quelle est l'idée?
Oui, ça,
Oui, on a le temps. Alors, ça c'est au chapitre 49, cette fois, mais attendez, je peux trouver. Non, avant, 48. C'est au chapitre 48, verset 38. Voilà, le verset. Notez la référence, vous verrez pas vous-même. Vaïchi, Yaakov, Beret, Mitzrayim. Et Jacob vécut au pays d'Égypte. Sheva Esther Shana, 17 ans, 17 années. Vaïchi, Yemé, Yaakov, Shenechayav, et les jours de la vie de Jacob furent Sheva, Babaïm, Machana, 147 ans. Verset 30, 28. Et Jacob vécut au pays d'Égypte, 17 ans. Verset 29. Vaïchi, Yemé, Israël, la mout. Alors les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Mais au verset précédent, il s'appelle Jacob. Le verset suivant s'appelle Israël. Ça veut dire que Jacob s'installe au pays d'Égypte, alors les jours d'Israël s'achèvent. Est-ce que c'est clair? Les îles commencent. Et ici, il y a un point important, c'est pas Israël qui meurt, c'est les jours d'Israël. Yémé Israël. Ben, il se fait où? Yémé Israël. Je parlerai de cela ce soir à la fin du séminaire, en citant un enseignement de M. Meyer à ce sujet. Vaïkra, les vrais versets. Alors, je vous citerai un enseignement du Shla. Le Shla, en citant d'autres commentaires, pose la question, comment le verset peut dire que Jacob a vécu au pays d'Égypte? Est-ce qu'on peut vivre quand on est Jacob en Égypte? Est-ce que c'est une vie? Enfin, la première question. Et le texte aurait envoyé un tout autre terme pour nous dire que le temps qu'il a passé en Égypte, c'était 17 ans, mais dire qu'il a vécu 17 ans. On entend dans les mots, Vaïkri, ce qui peut avoir une vie en Égypte. Alors il répond, c'est 17 ans. Et le verset suivant explique. Parce que Jacob n'a vécu vraiment que lorsqu'il était avec Joseph. C'est lorsque Jacob est avec Joseph que Jacob est vivant. Et Jacob, c'est la force Joseph, c'est la force de Jacob. Alors il était 17 ans au pays de Canaan, au commencement de l'histoire de Joseph. Joseph était âgé de 17 ans, vous rappelez, lorsqu'il est descendu en Égypte. Et 17 ans en Égypte, ça fait 30 ans. 17-17-34. Quelle est la valeur numérique de Vaïkri? Enfin, vous avez deviné. Alors, Vaïkri a pour valeur numérique 34. Ça veut dire qu'il a vécu 34 ans. Maintenant, le compte des années de sa vie, c'est 147 ans. Vous avez vu le verset? Oui, vous voyez qu'on ne va pas dire ça en français. C'est bon, alors ça, c'est le lien entre Jacob et Joseph. Bien. Alors, vous voyez donc qu'il faut recoder un vocabulaire très précis. Lorsqu'on va à l'aventure de ces identifications, nous sommes dans un temps d'identification, il n'y a pas de doute. Et on cite le verset de Psaume, Gal Enai Vabita Miflavot Mutoratecha. Dessine mes yeux que je vois les merveilles de ta Torah. Dessine mes yeux dans le monde, que je vois dans le monde, selon la Torah parle. C'est clair. Alors le problème, c'est que le vocabulaire est très précis, on ne peut pas faire de transposition. C'est une science pour elle-même. C'est pourquoi il faut se méfier des vulgarisations, quelles qu'elles soient, qu'on ne sait pas vérifier par un texte écrit par le Midrash, le Zohar, le Talmud et à la lettre. Avec la Bible, c'est un livre qui se lit à la lettre. Dès qu'on le lit en esprit, c'est un esprit. Vous avez compris. De la manière qu'Israël est au pied du mur. C'est au pied de la lettre. Bien. Alors, nous sommes donc arrivés à. Et Abraham s'est attaché à Ishmaël, jusqu'à ce que Dieu lui a répondu. Et en ce qui concerne Ishmaël, je t'écoute.